longue durée de Banque Atlantique pour acquérir, construire ou rénover votre logement à taux exceptionnel vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, vos réactions, et elles sont très nombreuses ce matin, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, nombreux à réagir justement au volet diplomatique. On voit bien que les tractations se poursuivent. Hier, le président kényan était à Kinshasa. On nous annonce très prochainement la tenue à Luanda d'un nouveau sommet entre le président Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Il y a ces fameuses discussions avec les groupes armés qui devraient reprendre très prochainement à Nairobi, au Kenya. En tout cas, les appels demandant au M23 de déposer les armes se multiplient et sur le terrain, on le voit, les affrontements se poursuivent entre l'armée et les rebelles. Vos réactions, vos analyses, évidemment, nous intéressent. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70 et vos réactions toujours, comme tous les matins, sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va justement commencer avec une question sur ces combats dans l'est de la RDC, dans la province du Nord-Kivu. Bonjour Sabin.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et merci de nous appeler de Bukavu, justement, en RDC. Nous vous écoutons.
Oui Juan, je suis à Bukavu et on a plus d'informations précises sur la position exacte du M23. Quels moyens déploie l'armée pour empêcher la prise de Goma?
Ah, bonne question, effectivement. Bonjour Pauline Azidi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Actuellement, le front le plus proche de Goma se trouve à une vingtaine de kilomètres de la ville?
Tout à fait. Hein. Les combats ont eu lieu ces derniers jours, principalement autour de Kibumba. C'est une ville stratégique. On dit souvent que c'est le dernier verrou sécuritaire avant la capitale du Nord Kivu. En mai, déjà, des combats avaient eu lieu dans cette localité sans que les rebelles ne parviennent à dépasser Kibumba. Dans cette zone, ce sont les FARDC qui sont déployés et jeudi dernier, ils ont eu des renforts aériens puisque des avions de chasse de type Sukhoi ont plusieurs fois bombardé les positions du M23 vers Kibumba. Par ailleurs, des témoins, notamment des journalistes, disent avoir aperçu ces derniers jours quelques soldats kényans. Néanmoins, les troupes kényanes déployées dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est, on parle aujourd'hui d'environ 200 militaires à Goma, ne sont pas encore intervenus sur cette ligne de front.
200 militaires déjà déployés sur les 900 promis par le Kenya. Du côté de la MONUSCO, Pauline Azidi.
Peu d'informations du côté de la MONUSCO. La mission de l'ONU a communiqué la semaine dernière pour dire qu'elle faisait des patrouilles au sud de cette ligne de front. Donc, on est plus vers Goma, sur l'axe principal qui mène vers Kibumba, pour éviter tout acte criminel contre les populations déplacées. Elle a posté sur les réseaux sociaux, notamment hier et ce matin, plusieurs images de ses troupes vers Kibati. En ce qui concerne les combats, elle n'a pas confirmé ou infirmé sa participation.
Sabin, vous avez une autre question.
Oui, Juan. Malgré les efforts diplomatiques, l'homme 23 ne se retire pas. La discussion avec les groupes rebelles est-elle vraiment une option pour les gouvernements de Kinshasa?
C'est une question qu'on débattra tout à l'heure avec vous tous. Faut-il, oui ou non, négocier avec le M23? Pauline Azidi?
C'est une très bonne question. La position congolaise, on va dire qu'elle n'a pas beaucoup varié là-dessus. Depuis le début de la crise, Kinshasa ne veut pas négocier avec le M23, qu'elle accuse d'être soutenu par le Rwanda voisin. Mais si en octobre, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, s'était montré intraitable, il est hors de question de négocier avec un mouvement terroriste. Il a posé courant novembre des conditions pour envisager des négociations et avant tout que le M23 quitte toutes les positions occupées. On nous force la main pour négocier avec des groupes terroristes, avait alors reconnu Patrick Muyaya.
Oui, ce qui est sûr, c'est, ça va le rappeler à l'instant, c'est que les efforts diplomatiques se poursuivent.
Ça c'est sûr, et la diplomatie s'active et cette semaine, elle s'annonce chargée. Hier lundi, vous l'avez dit, le président kényan William Ruto était à Kinshasa pour rencontrer Félix Tshisekedi. Ils ont bien évidemment parlé de cette crise dans l'Est. Un sommet devait se tenir aussi hier à Luanda, à l'initiative du président angolais, qui avait convié janvier ses homologues du Rwanda, de RDC et du Burundi. Ce sommet devrait, et là on va vraiment rester au conditionnel, finalement avoir lieu jeudi. Et enfin, on attend surtout la reprise des discussions de Nairobi, qui ont été plusieurs fois reportées ces derniers temps. Nouvelle échéance promise le 27 novembre, mais on ne sait pas encore qui devrait y participer.
Le 27 novembre, c'est vendredi.
C'est dimanche,
effectivement, c'est dimanche. Bon, écoutez, là aussi, on a envie d'entendre les auditeurs sur ces discussions qui doivent reprendre à Nairobi dimanche. A-t-on répondu à vos questions, Sabin ?
Oui, Roanne, merci beaucoup. Merci à Pauline et bonne journée à vous.
Pauline Azidi, journaliste au service Afrique de RFI. Bonne journée à tous les deux. Il est 9h16 ici à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va revenir sur la COP 27 qui s'est terminée dimanche. Bonjour, Messi Fidel.
Bonjour, Roanne. Bonjour à tous.
Et vous souhaitez que l'on revienne sur l'avancée la plus importante de cette COP 27.
Exactement, Roanne. En fait, un fonds sur les pertes et dommages a été adopté à la COP 27. Cela faisait longtemps que les pays vulnérables le réclamaient. Alors, Juan, je me pose la question de savoir de quoi s'agit-il et pour quelles raisons cela a été si long.
Alors, pour vous répondre, l'une des envoyées spéciales de RFI à Sharm el-Cheikh, vous la retrouvez tous les jeudis et vendredis sur l'antenne de RFI. Elle présente le magazine C'est pas du vent. Bonjour Anne-Cécile Bras.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Ce fonds dédié donc à financer les pertes et dommages, concrètement de quoi s'agit-il ?
Alors il s'agit d'un nouveau fonds pour aider les pays les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique à financer les réparations des dégâts en cas de catastrophe comme les inondations massives au Pakistan, la sécheresse en Afrique de l'Est en ce moment, les cyclones destructeurs dont on entend parler régulièrement à Madagascar ou les ouragans en Haïti. Tous ces phénomènes ne sont pas nouveaux mais ils sont amplifiés par le changement climatique dont ces pays ne sont pas responsables. Alors si de nombreux pays comme les petits États insulaires ou des États africains ont qualifié la création de ce fonds d'historique, eh bien c'est parce que cela fait 30 ans qu'ils le réclament. Le principe de créer ce fonds a été reconnu en 2013 à la COP19 avec le lancement du mécanisme de Varsovie, puis renforcé en 2019 à la COP25 à Madrid avec la création du réseau de Santiago, deux entités qui regroupent des pays chargés de travailler sur les aspects techniques, c'est-à-dire comment définir les pertes et dommages, qui va payer et combien.
Et pourquoi ça a été si long ?
Alors pour deux raisons. D'abord, c'est la Convention des Nations Unies sur le climat, donc il faut réussir à se mettre d'accord.
Ah, Anne-Cécile Bras, la liaison s'est interrompue. Anne-Cécile qui s'apprêtait à nous expliquer que c'est bien compliqué de s'entendre lorsqu'il s'agit de trouver une solution ou un accord lorsque 195 pays sont autour d'une table. On imagine que ce n'est pas simple, que ce n'est pas évident. Mais si fidèle, restez avec nous, on est en train de rétablir la liaison avec Anne-Cécile Bras qui va nous détailler un peu le pourquoi du comment. Et la difficulté de mettre en place ce fonds sur les pertes et dommages, puisqu'elle était sur place avec d'autres envoyés spéciaux de RFI pour nous permettre de vivre au plus près cette COP 27 qui s'est terminée donc dimanche à Sharm el-Cheikh. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez en ce moment, si vous souhaitez évidemment réagir à cette avancée qualifiée d'historique par de nombreux pays africains, on peut en parler bien évidemment vendredi dans la libre antenne. Anne-Cécile Bras, êtes-vous pas encore. Elle n'est pas encore de retour, décidément, on est en direct. Et ça se passe comme ça, voyez, Messi fidèle. Alors, on me dit d'attendre encore un tout petit peu. J'espère que ça ne sera pas très très long, parce qu'au bout d'un moment, j'aurai plus grand-chose à vous raconter. Alors, on me dit, on va changer de sujet. Messi fidèle, vous êtes toujours là ?
Oui, je suis là, Roi.
Ne raccrochez pas, c'est un peu plus long que prévu de rétablir la liaison avec Anne-Cécile Bras. On vous retrouve, c'est promis, dans 2-3 minutes, 4 minutes au maximum. Autre auditeur ce matin sur l'antenne de RFI, Obkiri, bonjour.
Bonjour, Anne, bonjour à tous les auditeurs du monde.
Et merci de nous appeler de Boromo. Boromo, c'est à l'ouest du Burkina Faso, c'est à mi-chemin entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Vous avez des questions, vous, sur la résolution de l'ONU contre la Russie, résolution adoptée la semaine dernière.
Effectivement, Anne, le 14 novembre dernier, les Nations Unies ont voté une résolution soutenant un dédommagement de la Russie envers l'Ukraine pour réparer les conséquences de la guerre.
Oui.
Du coup, je me demande, Juan, quel est l'intérêt de cette résolution alors que la guerre n'est pas terminée? Aussi, comment peut-on évaluer ces indemnités?
C'est une excellente question que vous posez, Obkiri. En tout cas, le président Zelensky, juste après ce vote, a déclaré sur Twitter « L'agresseur va payer pour ce qu'il a fait ». Bonjour Pierre Baudot-Livinec.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit public, directeur du Centre de droit international de l'Université de Nanterre. Expliquez-nous déjà ce que précise cette résolution adoptée tout de même par 94 pays la semaine dernière.
Oui, Juan. Alors, c'est une résolution de l'Assemblée générale, donc elle n'est pas contraignante, elle n'est pas obligatoire, mais elle contient deux dispositions qui sont particulièrement intéressantes, à mon avis. La première, c'est qu'elle évoque la possibilité d'établir, en coopération avec l'Ukraine, un mécanisme international pour réparer les dommages commis par la Fédération de Russie pendant son agression. Ça, c'est le premier point. Mmh. Et le deuxième point, c'est qu'elle recommande aux États membres de créer un registre international des dommages qui ont eu lieu en Ukraine. Et ces deux points sont vraiment intéressants. Je trouve que la question est très, très bien posée, même si c'est pas obligatoire, tout ça. Oui. Je crois que pour répondre à l'auditeur, le plus tôt on s'intéresse à ces questions, le mieux c'est, ouais. Pour une raison de principe et une raison pratique, je fais très court.
Quand vous dites que ce n'est pas obligatoire, juste préciser que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ne sont pas contraignantes, contrairement à celles adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais concrètement, comment, quand vous dites qu'il s'agit de quantifier les dégâts causés par la Russie en Ukraine, c'est-à-dire qu'on ouvre un cahier et on note au fur et à mesure ce que la Russie devra verser comme réparation?
Alors, c'est un peu plus organisé et complexe que ça, mais c'est vraiment l'idée. Et c'est tout à fait important de le faire pour une raison de principe, c'est-à-dire que même dans le cas très intense de la guerre, il faut rappeler l'État qui commet les dommages qu'il est responsable, qu'un jour, effectivement, il sera sans doute appelé à payer, même si c'est compliqué à faire en pratique. Et puis surtout, justement en pratique, c'est pendant le conflit que l'on peut répertorier les dommages le plus précisément possible. Je vous entendais, je suis un auditeur aussi, je vous entendais parler de la RDC tout à l'heure. Bon, il se trouve que je suis intervenu dans le conflit entre la RDC et l'Ouganda devant la Cour internationale de justice. Et évaluer les dommages 10-15 ans après les faits, c'est extrêmement difficile pour l'État qui a été victime de ces dommages. Donc, le plus vite on le fait, le mieux c'est, si vous voulez. Après, il faut raffiner tout ça. Mais il est vraiment important de pouvoir documenter les dommages aussi précisément possible lorsqu'on parle de crimes de masse, d'atteinte aux personnes, mais aussi d'atteinte aux biens, d'atteinte à l'environnement. Tout cela sont des dommages considérables qui ont besoin d'être établis aussi vite que possible.
Merci infiniment Pierre Baudot-Livinec, professeur de droit public et directeur du Centre de droit international à l'Université de Nanterre, en région parisienne. Obkiri, très bonne journée à Boromo. Anne-Cécile Bras, vous êtes de retour?
Oui, désolé.
Non, mais vous n'y êtes pour rien, Anne-Cécile Bras. Parfois, la technologie nous dépasse. Messi Fidèle est toujours en ligne avec nous de Lubumbashi. Je vous demandais, Anne-Cécile, pourquoi finalement ça a été si long d'adopter à la COP ce fonds sur les pertes et dommages?
Oui, eh bien, j'étais en train de vous répondre en vous expliquant qu'il y avait deux raisons à cela. D'abord, qu'il fallait réussir à se mettre d'accord à 195 pays, ce qui n'est pas simple. Hein. Mais surtout parce que le symbole est fort, la création de ce fonds, c'est reconnaître pour les pays industrialisés la dette morale qu'ils ont vis-à-vis des plus vulnérables. Les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir sur tous les continents, hein, nous en parlons régulièrement sur l'antenne de RFI, et ce n'est qu'un début, et il devenait extrêmement compliqué pour les pays riches de continuer à détourner le regard. C'est donc une victoire de la société civile en faveur de la justice climatique. C'est aussi un moyen de restaurer la confiance entre les pays du Nord et ceux du Sud qui attendent toujours que les promesses financières comme les 100 milliards de dollars annuels promis à partir de 2020
soit réellement sur la table.
Oui, ils attendent effectivement toujours. On a pu entendre tout au long de cette COP de nombreux dirigeants, notamment du continent africain, s'en plaindre. A-t-on une idée, Anne-Cécile Bras, quand les pays vulnérables pourront bénéficier de l'argent de ce fonds sur les pertes et dommages ?
Alors le fonds devrait être opérationnel dès 2023, mais tout reste à déterminer qui va payer, qui va en bénéficier. Le sujet est extrêmement sensible car depuis la création de la Convention des Nations Unies sur le climat, les pays sont répartis en deux catégories, les pays développés et les pays en développement. Alors est-ce qu'il faut suivre aujourd'hui cette classification pour attribuer les financements, sachant que l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Russie, le Brésil, l'Indonésie, mais aussi l'Inde et la Chine figure parmi les pays dits en développement, donc seront-ils des contributeurs à ce fonds ou des bénéficiaires, c'est à déterminer. Et puis, sur quelle base aussi déterminer les montants? Est-ce que ce sera des prêts, des dons? Que vaut une vie humaine, une ville détruite, une saison de récolte ravagée? Alors, pour répondre à toutes ces questions, les États ont décidé de créer un comité de transition qui devra livrer ses propositions lors de la COP28 qui aura lieu l'année prochaine à Dubaï. En attendant, il y a déjà un peu d'argent sur la table. 40 pays se sont engagés à donner 350 millions de dollars, mais c'est vraiment une goutte d'eau à l'échelle des besoins.
350 millions de dollars. Merci infiniment, Anne-Cécile Bras. On vous retrouve évidemment jeudi pour le magazine C'est pas du vent, mais si fidèle, on a répondu à votre question.
Malgré la technologie, on a pu répondre très bien à mes questions. Merci, Roi.
Bah, merci surtout, Anne-Cécile, et merci à vous de votre fidélité, de votre confiance. Il est 9h27, on a le temps de prendre une dernière question. Soyez le bienvenu, Jean-Baptiste.
Merci beaucoup, Anne. Alors, rapidement, la question, c'est le Royaume-Uni et la France qui ont conclu un accord pour arrêter le traversée des migrants entre les deux pays. Mes deux premières questions, parce que j'en ai un peu quatre, quels moyens supplémentaires prévoit cet accord pour contrôler le flux de migrants? Peut-il être une solution durable pour endiguer les traversées?
Alors ça, c'est une très bonne question, d'autant que depuis le début de l'année, plus de 40 000 migrants ont traversé la Manche. C'est un record, c'est deux fois plus que l'année dernière à la même époque. Virginie Guiraudon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Centre d'études européennes à Sciences Po Paris, spécialiste des questions migratoires. Plus de moyens pour contrôler les traversées de la Manche. Sur quoi porte exactement cet accord conclu entre Londres et Paris ?
Alors cet accord, d'abord, elle donne une enveloppe financière plus grande à la France. Donc 72,2 millions d'euros par rapport à 68 millions avant, pour qu'il y ait plus d'agents français qui patrouillent les plages du nord de la France, et puis pour acheter encore plus de technologies, donc là, des drones. Mmh. Et sinon, il y a des volets avec une idée plutôt pour qu'il y ait des centres qui ne soient pas à Calais, justement, qui soient dans d'autres régions de France, pour les migrants qui veulent aller au Royaume-Uni.
Donc on comprend.
Mais c'est essentiellement de l'argent et de la technologie.
Voilà, plus de moyens humains, plus de moyens technologiques. Est-ce que ce sera suffisant pour limiter le nombre de traversées? Je le disais à l'instant, c'est une année record.
Alors, c'est une année record parce qu'en fait, c'est pratiquement impossible de passer, de faire comme on faisait avant, c'est-à-dire en caché dans des camions. Donc c'est la nouvelle, c'est pour ça que les chiffres augmentent. Maintenant, il y a, on parlait de technologie, il y a des détecteurs de CO2, des caméras thermiques. Donc vous comprenez bien que c'est les small boats, comme on appelle ça en Angleterre, c'est-à-dire des petites embarcations, prennent la mer pour aller au Royaume-Uni.
D'accord.
Est-ce que c'est une solution? A priori,
oui.
Non. C'est-à-dire qu'on continue à mettre plus de moyens pour contrôler. Donc ça veut dire qu'a priori, il y aura des gens qui iront sur une plus grande partie du littoral, hein, qui fait quand même 100 kilomètres.
Ah oui, la côte fait 100 kilomètres. En tout cas, Virginie Guiraudon, vous avez été concise, très pédagogue. Ça nous a permis de répondre à deux des quatre questions qu'avait Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, je suis désolé, on est obligé de rendre l'antenne. Donc on essaie de vous répondre soit hors antenne, soit dans les prochains jours, évidemment, en direct dans cette émission. Bonne journée à tous les deux. Il est 9h30 à Paris. On va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient évidemment dans 10 minutes avec vos réactions, vos analyses et vos témoignages sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.